Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite pour Radio Ville-Marie par l'Institut de pastoral des Dominicains dans le cadre de son 50e anniversaire. C'est Francine Robert au microphone et normalement à ce moment-ci de l'émission, je vous dis qui j'aurai le plaisir d'inviter. Mais à cette émission, c'est moi qui serai l'invité et c'est ma collègue Sylvie Latreille qui a accepté d'assumer la fonction d'animation dans cette émission, ce qui lui a demandé de la préparation et de la disponibilité, et ce pourquoi je la remercie infiniment. Cette émission portera sur la Bible dans les mains du peuple de Dieu. Il y a eu un synode il y a 3 ans sur ce sujet et des documents qui sont parus depuis. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur la lecture de la Bible, sur l'exégèse, et j'essaierai de partager un peu avec vous mes réflexions et mon expérience sur ce sujet. Bonjour Sylvie.
Bonjour Francine, vous allez bien?
Ça va très bien, merci.
Là, cette fois-ci, on se retrouve de deux côtés de la table différemment.
Tout à fait.
Écoutez, le sujet aujourd'hui est passionnant et en nous préparant, un souvenir m'est venu à l'esprit. Je me souviens un jour, maman qui me demande, j'aimerais ça Sylvie, avoir une Bible. Et elle m'avait confié la tâche d'aller lui en acheter une. Et je ne pourrai jamais oublier le sourire qu'elle avait et en même temps les points d'interrogation dans les yeux. Lorsque je lui ai remis la traduction œcuménique de la Bible, et je me souviens comment est-ce que, en prenant le livre entre ses mains, il y avait une malhabilité. Et elle me disait, tu sais, j'ai feuilleté les missels dans ma jeunesse, j'ai feuilleté le prion en église durant mes années d'adulte, mais d'avoir une Bible comme telle, elle dit, tu sais, on n'avait pas le droit d'avoir ça, une Bible entre les mains. Alors, vous comprenez, j'imagine, hein, le sentiment de cette vieille dame qui se retrouvait avec la parole de Dieu entre les mains. Est-ce que cette réticence que maman a pu vivre a un certain fondement?
Oui, jusqu'à un certain point, c'était plus une impression générale qu'une décision officielle ou un interdit clair de la part du magistère.
D'accord.
Si on parle de déclaration officielle. Mais effectivement, beaucoup de curés n'encourageaient pas les gens à lire la Bible, donnant l'impression que ce serait trop compliqué. Et il y a deux raisons qui permettent de comprendre cette réticence, je dirais, d'une certaine autorité de l'Église. C'est d'abord qu'on devait se contredistinguer des protestants.
Les protestants avaient accès à la Bible.
Oui, et non seulement ils y avaient accès, mais ils en faisaient le principe unique de la définition de la vie chrétienne, le sola scriptura, contre le magistère, au fond. Nous, les protestants, notre magistère, c'est la parole de Dieu, voilà.
Directement.
Disons, c'est sûr que ça génère une certaine méfiance face à la lecture de la Bible chez le magistère. Et l'autre aspect, c'est les relations, pour le moins, très difficiles qui ont eu lieu entre les exégètes, donc les spécialistes des textes bibliques et le magistère romain au 19e siècle et toute la première moitié du 20e siècle. Ça allait pas bien entre les deux.
Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus sur cette relation entre le magistère et l'exégèse? Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices l'importance de l'exégèse comme méthode de lecture de la Bible. C'est à cela qu'on fait référence.
Oui. Le mot exégèse, définissons-le simplement, l'exégèse, c'est l'explication de texte. Ça pourrait aussi bien s'appliquer aux fables de La Fontaine qu'à la Bible. Au niveau de l'exégèse biblique, ça a été pénible. Bon, on pense entre autres à tout le développement scientifique, hein, 17e, 18e, 19e siècle, les sciences de la nature, qui étaient perçues comme une menace par Rome pour la vérité des saintes écritures. On se rappellera quand Galilée a dit que la Terre tournait autour du Soleil, l'argument qui rendait ça irrecevable, c'est que Josué avait arrêté le soleil 3 jours lors de la conquête de Jéricho. Et
donc, c'était impossible.
C'était impossible.
Et cela venait ébranler des fondements extrêmement importants et structurants aussi de l'histoire.
C'est ça, oui. et toute la théologie scolastique qui s'était développée en marge de la Bible, mais qui prenait appui sur la Bible, était considérée, disons, comme menacée. Hein. Si le monde n'a pas été créé comme Genèse 1 le raconte en 7 jours, puis imaginez l'effet que Darwin, les théories de Darwin ont pu faire.
Tout à fait.
Alors, ça veut dire que la Bible se trompe. C'est comme ça qu'on voyait ça.
Exactement.
Alors, ça se comprend qu'il y a eu des réactions très négatives. Mais je signale quand même que Léon XIII, on n'était même pas au 20e siècle, en 1893, le pape Léon XIII avait publié une encyclique dans laquelle il essaie d'ouvrir une porte sur les rapports entre la science et la Bible en disant, je cite à peu près, « La Bible dit avec certitude la vérité lorsqu'elle enseigne les choses du salut. Mais, dit-il, les auteurs bibliques ne pouvaient parler des réalités du monde qu'à partir de leur manière de connaître le fonctionnement du monde. Et donc, ce sont d'autres sortes de vérités et ça n'est pas une tragédie si la façon dont on comprenait le monde au temps biblique est contredite par la façon dont on comprend le fonctionnement du monde aujourd'hui.
Mais ça a été à la suite d'un long processus pour en arriver à ce constat. Et je pense qu'il y a eu d'autres éléments aussi dans l'histoire qui ont permis d'avancer et de reconnaître un peu plus l'exégèse et de voir ce rapport aussi entre le magistère et l'exégèse.
Ça a été difficile longtemps. Ces difficultés-là, même si elles ont évolué du côté du magistère, sont présentes encore dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Qui considèrent encore aujourd'hui que la vérité du texte, c'est d'abord sa vérité factuelle, une sorte de positivisme.
Faut dire aussi, Francine, il me semble, il y a beaucoup de groupes qui vont avoir une lecture beaucoup plus fondamentaliste.
Tout à fait.
Qui fait en sorte que quand nous rencontrons des personnes qui ont cette manière de lire la Bible, c'est une certaine confrontation ou vis-à-vis nous de voir comment est-ce qu'on se situe par rapport au texte.
Oui, et vous avez raison de le souligner, parce que beaucoup de chrétiens catholiques se sentent démunis, ont peut-être moins de problèmes avec l'idée qu'il y a du symbolique dans la Bible, mais ont l'impression qu'ils vont affaiblir le texte lorsqu'ils se retrouvent avec des gens qui ont une lecture fondamentaliste, effectivement.
Qui ont réponse à tout.
Qui semblent avoir réponse
à tout. Qui semblent, oui, j'aime la nuance. Autrement dit, quand vous dites quels sont les faits, et on voit bien la distance qu'il y a entre le texte, le message,
les événements,
c'est comme si on s'attendait à ce que la réponse ait été donnée clairement. Mais là, n'y a-t-il pas une espèce de deuil auquel nous sommes invités à consentir?
Absolument, et on peut être rassuré, le magistère lui-même nous invite à consentir à ce deuil. Hein. Même pour les évangiles, l'encyclique Dei Verbum de Vatican II, donc 1965, dit clairement que pour les évangiles, il faut tenir compte de leur formation progressive si on veut respecter leur sens. Ça dit clairement, les évangiles ne sont pas des biographies de Jésus au premier degré.
Je pense que ça serait intéressant d'insister sur ce fait.
Oui, il y a un écart entre ce que les auteurs écrivent et ce qui s'est passé. C'est des auteurs inspirés, les auteurs de la Bible, et ils écrivent pour des communautés croyantes. Et pour eux, au fond, Dieu se rend présent dans leur expérience intérieure. Et il l'éclaire et il stimule à comprendre autrement. Mais Dieu ne donne pas de cours. L'inspiration, c'est pas des cours.
C'est pas des cours, hein? Formation systématique.
Et je me dis, si on devient plus à l'aise avec ça, ce que j'appelle développer une mentalité historique. Alors, on comprend qu'il y a des tâtonnements, que ça va pas toujours rapidement, qu'on a des hésitations et des reculs, et que ce qu'on sait ne change rien à notre rapidité à intégrer puis à changer notre manière de voir.
Et ce que je trouve significatif aussi dans ce que vous évoquez, j'ai à travailler présentement le récit de Pierre et de Corneille. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce magnifique récit, que je rappelle qui est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 10 et une partie du chapitre 11, où on voit bien comment est-ce que Pierre résiste à cette invitation d'aller à la rencontre de Corneille, qui est ce païen, ce centurion, et Pierre qui résiste carrément.
Ah oui,
et
qui a besoin d'une vision que Dieu lui envoie trois fois,
puis il ne comprend pas.
Puis il sent mal à l'aise d'entrer chez Corneille.
Il est très malheureux de cela. Et en même temps, on sait que cet événement, ça se passe après la Pentecôte.
Bien sûr.
Où lui-même a proclamé et annoncé comment le salut était offert à l'humanité tout entière.
Bien sûr, bien sûr.
Et dans Pierre et Corneille, ça achoppe.
Ça va pas de soi du tout, c'est ça. Et en plus, lorsqu'il finalement il se fait à l'idée et qu'il revient à Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem
sont
lui
pas
reprochent d'être allés chez un païen. Et nous, on lit naïvement la finale de Matthieu et le ressuscité qui leur dit, comme s'il n'y avait pas de problème là, « Allez enseigner toutes les nations ». Puis là, on se dit, mais ils n'ont pas compris, c'est quoi? Mais non, le temps que les choses entrent en nous et nous transforment, Dieu doit travailler avec notre mentalité. Et on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse.
Et si c'est vrai pour nous, dans notre expérience comme croyante, je saisis que cela a été vrai pour aussi
pour
ces témoins de la foi.
Absolument.
Et la distinction entre ce Jésus historique et cette distance face au Christ ressuscité,
oui.
Nous sommes dans un long processus de la maturation de la foi.
Absolument, et de cheminement et de tâtonnement. Et malgré les trois visions, lorsqu'on lit le début de l'Épître aux Galates, on voit que Paul dénonce Pierre qui a encore de la difficulté à manger avec
des chrétiens
non-juifs.
Effectivement,
voyez,
après
c'est
toute
après
l'expérience.
Tout ça, bien sûr. Donc, je me dis, si on développe davantage aujourd'hui une mentalité historique,
oui.
Pour moi, une mentalité historique, c'est comprendre cela, que les humains sont ce qu'ils sont et progressent à leur propre rythme, même si c'est Dieu qui les accompagne.
Tout à fait.
Si on comprend cela, on peut nuancer le regard qu'on porte aussi sur l'Église. Hein? Et,
oui.
Et il me semble que ça aide de comprendre l'Église. Si on comprend que sa propre tradition a évolué avec tâtonnement, avec hésitation et qu'elle a été marquée par les contextes culturels.
Et tout à fait.
Et
la dimension historique. Hein?
C'est ça, exactement.
Alors,
ouais.
Ça serait la part que vous verriez du développement d'une mentalité historique?
Oui. Un de ces apports, donc, c'est bien de reconnaître, comme nous le dit la Commission biblique pontificale, c'est un document publié en 1996 sur l'interprétation de la Bible en Église, qui nous dit on doit tenir compte du contexte historique dans lequel les auteurs ont vécu, si on veut comprendre ce qu'ils ont écrit. Nous devons consentir à l'histoire. Ça, c'est une des grandes contributions de l'exégèse.
De l'exégèse, hein?
Oui.
Il y en a d'autres, hein?
Oui,
vous pouvez
m'en
donner?
Oui. Oui, je vais en signaler
oui,
juste seulement deux autres.
Deux
les genres littéraires.
Les genres littéraires. Et l'autre acquis?
Le pluralisme
le
dans la Bible.
Oui. Qui pose problème.
Oui.
On va revenir de manière plus développée. Revenons au genre littéraire, Francine. On comprend qu'à travers les époques, les auteurs ont écrit dans des contextes particuliers, se sont adressés à des personnes aussi particulières. Alors, les genres littéraires, leurs contributions, quels sont-ils?
Savoir qu'il y a des genres littéraires, c'est reconnaître que la vérité dans un texte n'est pas toujours exprimée par le récit historique qui dit ce qui s'est passé. Je vais vous lire un petit bout de Verbum Domini,
oui.
Qui est le texte officiel à la suite du dernier synode.
Oui,
c'est récent, donc.
Oui.
Le texte est paru en novembre 2010. Qui dit « Des façons de parler dont le langage humain avait coutume d'user pour exprimer la pensée chez les peuples anciens ». C'est ça, les genres littéraires. Hein?
Ah, un langage humain.
Un langage humain. Même Dei Verbum, après le Concile, donc, disait « On doit tenir compte des genres littéraires, car la vérité se propose et s'exprime de façon bien différente en des textes historiques, ou prophétiques, ou poétiques, ou bien d'autres formes d'expression. » Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut tenir compte des manières, du style, des formes habituelles de raconter et de parler de l'époque où ça a été écrit. Et ça veut dire aussi, selon Dei Verbum, que n'importe quel genre littéraire peut exprimer la parole de Dieu.
Alors, l'intérêt, hein, c'est de voir comment est-ce que les évangiles n'étaient pas des biographies de Jésus. Dans les évangiles, il y a différents genres littéraires.
Tout à fait. Par exemple, les récits de miracles obéissent aux règles du genre littéraire, récits de miracles qui existaient à l'époque où les premiers chrétiens les ont racontés.
Effectivement.
Il n'y a pas de récit qui soit, vous voyez, le caméscope de l'événement.
Oui, oui.
Toujours, il y a des genres littéraires. Et si on dit, avec Dei Verbum, tout genre littéraire peut exprimer la parole de Dieu, ça veut dire que, par exemple, même si Job n'a pas existé.
Oui.
Le livre
de Job
est parole de Dieu.
Tout à fait.
Écrit par ce sage qui réfléchit sur...
La condition humaine.
La condition humaine, hein? L'absurdité de la souffrance.
Exactement.
C'est une grande vérité. On n'a pas à se demander si Job a existé. Et on peut considérer que l'auteur qui invente le personnage de Job pour avoir l'occasion de développer ses discours qu'on trouve dans le livre de Job, il transmet effectivement la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il comprend de comment Dieu éclaire le problème de la souffrance. Donc, ça veut dire que quand on parle de genre littéraire, on parle de langage symbolique, on parle de langage analogique, et le mot analogique, il est aussi repris dans Verbum Domini, hein, qui nous dit... Nous devons être conscients que la parole de Dieu fait une utilisation analogique du langage humain.
Alors, une analogie.
C'est comme un symbole.
C'est comme un symbole.
C'est pas un langage descriptif, c'est un langage analogique. Mais évidemment, quand on dit ça, ça veut dire que pour les gens qui ne sont pas des spécialistes, on leur demande un effort de lecture, d'interprétation. On ne peut pas lire ça comme on lit le journal.
Je suis d'accord avec vous. Et en même temps, il y a quelque chose que je remarquais quand j'ai eu la chance, il y a très, très longtemps, de travailler avec les enfants en animation pastorale scolaire. Je voyais comment est-ce que les enfants, spontanément, pouvaient réagir, entre autres au récit de Jésus qui marche sur les eaux.
Ah,
tout de suite, hein, les jeunes de 5e et 6e année me disaient « ça se peut pas ».
Mm-hmm.
Alors, il me semble qu'il y avait là une ouverture à essayer de comprendre le texte différemment dans le sens profond du
texte,
plus que dans le fait rapporté.
C'est ça.
Et l'analogie et la symbolique entrent en jeu.
Oui, de toute manière, même si ça se peut pour lui, disons, même si un jour Jésus avait marché une fois
sur les eaux,
comme événement, ça m'avance à rien de savoir ça.
Oui, c'est quoi
Par
le truc?
Contre, comme catéchèse,
oui.
Si ça symbolise la victoire permanente du ressuscité sur les forces de la mort, qui sont symbolisées par les grandes masses d'eau dans le monde juif, ça nous
ça
dit quelque
sens.
Chose. Voilà. Déjà au Moyen-Âge, on avait bien compris qu'il y a le sens littéral du texte, mais qu'on ne doit jamais s'en contenter. Qu'il faut aller au sens spirituel de toute manière. Mais, Sylvie, les gens trouvent ça un peu trop compliqué, un peu plus compliqué que de lire le journal, je dirais.
Oui.
C'est curieux, on a l'impression que lire, c'est une activité de consommation qui doit se faire rapidement.
Rapidement, alors que là, c'est tout le contraire.
Alors que là, on est obligé d'entrer dans le langage symbolique, de chercher, de réfléchir. L'avantage, à mon avis, de cet apprivoisement-là, pour beaucoup de gens, ce serait que, une fois qu'on l'a découvert pour la Bible, on transfère cet apprentissage-là. Tout langage religieux est symbolique.
Est symbolique, effectivement.
La liturgie est remplie de symboles. Voilà. Les déclarations magistérielles, bien qu'elles ne le disent pas toujours. Le credo.
Tout à fait.
Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Pensez-vous que Jésus est assis pour l'éternité?
Mais vous savez, Francine, moi, un des plaisirs que je peux avoir... lorsque j'ai à travailler des récits, c'est d'aller référer au dictionnaire symbolique.
Ah oui.
C'est d'aller voir dans les dictionnaires des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, tel mot ou bien telle expression ou tel lieu.
Tel arbre.
Le désert, la montagne.
Tout à fait.
Et il y a des dictionnaires très sérieux qui s'adonnent à cette compréhension aussi.
Bien sûr.
Symboles.
Et de toute manière, on a toujours besoin de langage symbolique. Sylvie, dès qu'on essaie de parler de quelque chose d'un peu important dans notre vie, dès qu'on essaie d'exprimer quelque chose sur l'amour, sur l'engagement, sur la détresse, on va aller chercher
du
langage symbolique. Ça devrait, il me semble, aider les gens à se réconcilier avec le fait qu'il y a du symbolique dans la Bible.
Tout à fait.
Sans susciter cette réaction que j'entends parfois, qui me fait toujours un peu de peine. « Ah, c'est rien que symbolique, ça veut dire que c'est pas vrai. »
Bien au contraire.
C'est encore plus
vrai. La force d'évocation du symbole, on sait que c'est agissant, c'est efficace.
Oui, ça va chercher des vérités encore plus profondes.
Plus profondes,
c'est plus
effectivement.
Vrai.
Et c'est ouvert, hein? C'est ouvert
Tout
comme interprétation.
Fait. Oui, voilà. Sylvie, la musique que nous allons entendre au cours de cette émission a été créée par Howard Shore pour les trois films de la grande saga Le Seigneur des Anneaux.
Dites-moi, Francine, on parlait tout à l'heure du pluralisme biblique,
oui.
C'est-à-dire une diversité de tout ce qui est dit au niveau de la foi, diversité de sens.
Oui, vous qui êtes en ecclésiologie, les images de l'Église qui sont très différentes selon qu'on est dans les Actes des Apôtres ou dans Paul. Ou...
Effectivement. Mais ça peut être surprenant pour des auditeurs, les auditrices, de dire « Ah, une diversité de sens ». De quoi parlons-nous?
Oui, ça aussi, ça suppose d'acquérir ce que j'appelle la mentalité historique pour comprendre qu'il y a eu des évolutions, des traditions littéraires. Oui, les auteurs, d'un siècle à l'autre, ne perçoivent pas les choses de la même façon. C'est un peu déconcertant. Nous, au fond, on entretient un peu, parfois, l'illusion que si on avait une définition claire et simple de Dieu, là,
Ça réglerait bien des problèmes.
Essayez de donner une définition claire et simple de vous-même.
Il y aurait des risques.
Oui.
La définition que je pourrais donner de moi-même pourrait rencontrer des résistances si à d'autres personnes on demandait « essayez de définir Sylvie Latreille ».
C'est sans fin ce processus.
Voilà.
Et on voudrait que ça soit simple pour Dieu.
Oui.
Ça peut pas être simple.
Non.
Alors, diverses façons de comprendre le salut, le Christ, la vie chrétienne, l'Église, l'Esprit, ça amène les gens à constater que les auteurs des textes bibliques sont des sujets croyants.
Oui.
Et qu'ils expriment leur point de vue. Ils n'ont jamais été des répétiteurs.
Oui.
Ils ont constamment réactualisé les images de Dieu, les images du peuple de Dieu. Et les textes écrits avant eux n'ont jamais été reçus comme une doctrine figée. Par exemple, l'Évangile de Marc n'est pas une contrainte qui oblige Matthieu et Luc à se taire, au contraire.
Au contraire, parce qu'ils s'adressent à des communautés différentes.
Différentes. Ils sont dans un autre contexte et donc ils vont réactualiser.
Exact.
Ce qu'il y a dans Marc, vous voyez. Donc, les auteurs sont subjectifs, c'est ça que ça veut dire. Et là, j'entends des étudiants dire « Ah, c'est juste son image de Dieu à lui. » Ben oui, c'est pour ça qu'il y a plusieurs images de Dieu. C'est juste son image de Dieu à lui. Mais c'est stimulant parce que ça sollicite chez nous le même travail.
Le même travail.
Moi aussi, je dois me mettre au clair sur ma propre image de Dieu.
Et à quelle époque de notre vie aussi ces images de Dieu.
Absolument, elle a changé.
Parce qu'elle peut changer, l'expérience fait en sorte que ce n'est pas le même rapport. Et des images de Dieu comme enfant, ce qui nous a été donné, l'éducation,
oui,
tout ça.
Bien sûr.
Et comment est-ce que par la vie, l'expérience de la vie, nous avons à déconstruire nos images de Dieu.
Oui, tout à fait. Et donc, on est renvoyé au même travail que les auteurs bibliques.
Que les auteurs ont fait.
C'est ça que l'exégèse nous aide à découvrir. Au fond, la Bible est tout sauf doctrinaire.
Doctrinaire. Hein?
Puis on est tellement dans le pluralisme aujourd'hui,
oui,
au plan religieux en général, et à l'intérieur même de l'Église.
Tout à fait.
Que la Bible est très moderne, je trouve, dans
de ce
cet
côté-là.
Aspect, oui. Et elle nous renvoie à nous-mêmes la responsabilité de trouver du sens et une manière de comprendre les choses qui va faire écho dans notre propre vie et non pas de simplement répéter
la
doctrine ou le texte.
Tout à fait. Qui deviendrait l'être mort.
Absolument. Absolument.
Avec le changement des époques, les événements,
oui.
Ça perdrait du sens.
Tout à fait. Et c'est bien ce que les auteurs bibliques ont compris. Lorsqu'ils réécrivent, après l'exil, le récit, par exemple, de la sortie d'Égypte.
Oui.
L'auteur, après l'exil, fait mémoire d'un événement d'où il était complètement absent, arrivé 700 ans avant.
Il y a un délai ou une distance de
énorme.
7 siècles.
Oui, ça n'est pas rien. On a écrit sur la traversée de la mer avant l'exil. Il existe des récits et on en refait encore d'autres. Et là, nous, on se dirait, mais pourquoi est-ce qu'il en refait un autre? Mais tout simplement parce qu'il n'est plus cet auteur dans la même situation que ceux qui ont écrit les premiers récits.
Voilà.
Et la communauté croyante, je parle toujours d'un auteur, mais ça n'est jamais un auteur.
Ce sont toujours des auteurs.
Hein? C'est porté
par une communauté.
Tout à fait. L'auteur qui se rend compte que la manière dont on comprend la traversée de la mer dans les textes reçus n'est plus parlante pour les gens de sa génération.
Donc, trouver une autre manière
oui.
de rendre le texte, l'expérience significative.
C'est ça. Ils veulent l'actualiser. Et faisant cela, il est inspiré. C'est sa propre expérience de Dieu dans son présent qui l'amène à comprendre autrement quelque chose de la sortie d'Égypte que le premier auteur n'avait pas
saisi
exprimé
de la même façon.
Et voilà. Et c'est sa responsabilité de toujours témoigner au présent d'un Dieu qui se révélait dans le passé, mais qui est encore
qui
dans
est
le
encore
présent.
En action aujourd'hui.
C'est
N'est-ce
ça.
Pas aussi le défi dans les homélies que d'être en mesure de rendre présent et actuel, le message
voilà.
qui est là pour le rendre significatif pour aujourd'hui?
Voilà.
Et ça, ça se place dans un contexte historique, culturel.
Oui, et c'est un travail d'interprétation. Lâchons le mot, je le lance, c'est un mot que les gens n'aiment pas. C'est un travail d'interprétation, mais toute la Bible est elle-même un travail
d'interprétation.
Quand on voit un auteur écrire la création en 7 jours, alors qu'il a déjà sous les yeux le récit de la création dans le jardin où Dieu fait la dent avec la glaise, pourquoi est-ce qu'il en écrit un autre? Mais parce que ce récit du jardin ne lui suffit plus après ce qu'il a vécu à Babylone.
Il a besoin de
d'autres choses,
d'un autre récit,
d'une vision plus grandiose.
Oui.
Le récit de la création en 6 jours, il est solennel, grandiose, alors que l'autre
très poétique.
Est tout. Oui, le second est tout intimiste. C'est Dieu qui est là à fabriquer, et c'est très bien que le deuxième écrive. Sans disqualifier
le premier
récit.
Ça, ce serait important d'insister là-dessus.
Oui.
Ce n'est pas une construction qui fait en sorte que la construction précédente du récit ne vaut plus rien.
C'est ça, exactement.
Bien au contraire.
C'est comme inscrit dans la nature même de la Bible que d'être à la fois des héritiers d'une tradition transmise et des producteurs de sens.
Des producteurs de sens.
Pour l'aujourd'hui.
J'aime beaucoup cette expression.
Il me semble qu'on doit s'inscrire nous-mêmes comme lecteurs. Et l'auteur assume sa propre subjectivité en disant, voilà, moi je suis obligé de réécrire l'histoire des rois, par exemple. Il y a 2 livres des rois. Et d'autres livres que l'on appelle les livres des chroniques, parce que cet auteur qui les écrit à une époque où il n'y a plus de roi, et donc il réfléchit sur la royauté différemment.
Exact.
Donc, il a besoin d'une réécriture, il prend sa responsabilité et il le fait. Alors, au fond, on pourrait dire que cette diversité ou cette pluralité dans la Bible vient de ces étapes de rédaction et de ces auteurs inspirés qui ont toujours assumer les nouvelles questions qui surgissaient dans des situations historiques différentes, et ils ont offert des réponses en écriture nouvelle et transitoire qui n'était jamais elle-même définitive, sans jamais annuler ce qui précédait. Ils avaient une mentalité historique
naturelle,
je dirais, ces gens, que nous, on doit
aujourd'hui, nous avons plus besoin de la redécouvrir et la développer.
Je le pense, oui, parce qu'on a grandi dans un siècle de l'information, avec l'illusion que la meilleure information, c'est l'information brute, uniquement descriptive, et la subjectivité et l'interprétation ont mauvaise presse.
Mauvaise presse, et plusieurs sociologues à l'heure actuelle vont spécifier que dans notre société, l'interprétation communautaire, collective, élaborée, n'a plus autant de place aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus la réaction spontanée.
Ah oui.
C'est spontané.
Ah oui.
Alors, ce travail d'élaboration dont nous parlons est difficilement réalisable quand aujourd'hui, information reçue, réaction spontanée, et on n'a plus le temps, à cause de l'accumulation de toutes les informations, on n'a plus le temps de faire même une synthèse ou une analyse de ce qui se passe.
C'est vrai, mais c'est pas très favorable, en tout cas spontanément, je n'avais pas réalisé, mais c'est pas très favorable au type de lecture que réclame la lecture biblique.
Ou bien ça devient une opportunité,
peu
à la manière d'un luxe,
de s'arrêter,
de dire on s'arrête et nous le faisons.
Et on prend le temps de vraiment lire et d'entrer en profondeur.
Oui,
sinon on est toujours à la surface des choses et de soi-même.
Exactement.
Finalement.
Selon vous, quel serait un cas de pluralisme ou de pluralité qui risque de poser problème
le plus difficile, les images de Dieu.
Les images de Dieu.
Combien de gens, Sylvie, nous disent dans nos cours et ailleurs, « Ah non, moi, l'Ancien Testament, jamais le Dieu de la loi, le Dieu jaloux, le Dieu qui fait la guerre, le Dieu qui prend pour un peuple contre tous les autres. »
Qui punit,
se met en colère à tout bout de champ, qui jamais, non, moi je suis chrétien.
Et surtout jaloux, le Dieu jaloux.
Le Dieu, c'est ça. il y a énormément d'images différentes. Et ce que les gens admettent moins volontiers, c'est que ces images-là, du Dieu en tout cas qui punit sévèrement, elles sont présentes quelque peu dans le Nouveau Testament. Elles y sont et même dans certaines paraboles de Jésus.
Serait-ce trop osé, Francine, oser dire que c'est présent dans l'imaginaire de bien des chrétiens et des chrétiennes aussi?
J'en suis persuadée. La Bible est notre miroir à plus d'un point de vue. Et je crois que même s'il n'y avait ni Bible ni religion, et même si on n'avait pas été éduqués, vous et moi, dans les années 50 ou 60, peut-être pour vous, pardon, au Québec, tout enfant a, dans son imaginaire, guillemets, mon père est plus fort que le tien.
Ah, d'accord. Hein?
Et Dieu, c'est ça. Le premier Dieu de l'instinct.
Oui.
Alors, si je suis mal pris, il y aura toujours un Dieu pour me défendre.
Pour me défendre.
Et si je suis attaqué, Dieu va combattre à mes côtés. Et ça, c'est naturel de penser comme ça. Oui. Donc, pourquoi s'en scandaliser de le voir dans la Bible? Ben, les gens vont s'en scandaliser seulement s'ils demandent à la Bible de ne pas être historique au sens enraciné dans l'histoire.
Exact.
C'est-à-dire, si on demande à la Bible une bonne définition de Dieu, on est choqué de voir cela.
Tout à fait.
Si on comprend que les auteurs sont enracinés dans leur époque, on comprend que ça fasse partie de leurs images de Dieu.
Tout à fait.
Ce petit peuple en guerre, qui sait très bien qu'il va pas vaincre, à l'époque, le peuple d'Israël était un des très petits peuples. Hein.
Effectivement.
Et c'est pas étonnant qu'on ait eu des images où on demande à Dieu de se battre à nos côtés.
Et de nous accompagner,
et
de précéder.
Voilà. Moi, je pense que même dans les images que nous n'aimons pas, la Bible nous apprend quelque chose. Elle nous apprend d'avoir conscience que certaines de ces images-là sont dans notre imaginaire. Elle nous apprend aussi, disons, une certaine humilité. On ne peut pas tout comprendre de Dieu. On comprend Dieu seulement à partir de là où on est rendu, dans nos expériences de vie. Et c'est pareil pour les auteurs bibliques.
Oui, hein?
On intuitionne Dieu à partir de là où on a les pieds, point à la ligne. Et d'autres comprennent Dieu autrement et à partir d'autres expériences. Et si nous, on n'a pas besoin d'être sauvés par un Dieu qui abat les ennemis parce qu'on a la chance de ne pas avoir d'ennemis, on ne doit pas lever le nez sur ceux qui avaient suffisamment confiance en Dieu pour se dire que on est à la merci de nos ennemis, mais il ne nous laissera pas à la merci de nos ennemis.
Exactement. Voyez? Et ça, on voit bien ça dans les psaumes, d'ailleurs.
Absolument.
C'est le lieu peut-être un peu privilégié de voir comment est-ce que tous ces psaumes, hein?
Oui, oui. En fait, c'est le lieu.
Secours.
C'est le lieu que les gens connaissent le mieux.
Oui.
Où s'expriment certaines images de Dieu
oui.
agréables et désagréables.
Et désagréables, hein?
C'est ça. Mais finalement, Dieu doit consentir au chemin que nous pouvons faire.
Que nous pouvons faire.
Et il y consent, lui. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à consentir nous-mêmes à faire du chemin, tout simplement, puis à pas être arrivé à la définition finale?
Est-ce que cela ne nous amène pas à une grande pauvreté, justement?
Oui, ben, disons, en tout cas, une certaine humilité.
Humilité.
Et de savoir que ce que l'on connaît de quelque chose, c'est toujours, en même temps, ce que nous connaissons de nous-mêmes. Je dis autrement une phrase de saint Thomas d'Aquin, un grand dominicain quand
oui,
même.
Oui, Thomas. Oui, écoute, il a fait ses preuves. Hein?
Alors, on travaille pas chez les dominicains pour rien, Sylvie. Une phrase que j'aime beaucoup, c'était une réflexion qu'il faisait à propos de la connaissance, et il dit « Le sujet connaissant et l'objet connu n'existent pas autrement que par la relation qui les unit. »
Effectivement.
Hein? Et donc, c'est pareil pour les auteurs bibliques. On a beau dire que dans la Bible, Dieu se révèle, c'est vrai, mais il se révèle à des gens qui comprennent à partir de qui ils sont. C'est-à-dire, Dieu est l'objet connu, mais rien ne peut être exprimé en dehors du sujet qui le connaît.
Oui.
Les personnes étaient ce qu'elles étaient et nous sommes
ce que nous sommes et ce que nous pouvons seulement être aussi. Hein?
Voilà.
Et ce Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Ce Dieu de l'incarnation.
Oui.
Hein,
qui consent aux
qui
limites
consent
humaines.
Qui consent aux limites humaines.
On n'en revient pas des fois si on y pense bien. Malheureusement, on n'y pense pas bien la plupart du temps. On est trop habitué à ça. Mais le Dieu tout-puissant est bon. C'est remarquable. Nous avons cela en commun avec la foi juive et avec la foi musulmane. Allah le miséricordieux.
Hein. Le Dieu unique.
Hein. Le Dieu unique qui est bon et qui
est
tout-puissant.
Bon.
L'originalité de la foi chrétienne, c'est que ce Dieu-là transgresse une frontière inouïe. Il se compromet dans la condition humaine. Dans les religions, Dieu, c'est Dieu, puis nous, c'est nous.
Exact. Et, la transcendance est inaccessible.
C'est ça. Et doit le rester, moyennant quoi on est protégé. Et il est protégé contre nos gaffes. Voyez, oui. Dans l'incarnation, finalement, c'est la révélation d'un Dieu qui accepte, qui consent à la condition humaine. Et donc, ça veut dire qu'il consent à nos compréhensions limitées. Ça veut dire qu'il sait qu'il ne peut pas être transparent. Une vie d'homme, c'est pas simple. La vie de Jésus, c'est pas simple.
Elle n'est pas simple. Et elle finit mal. Elle finit mal,
elle
vous
finit
et moi.
Mal, c'est, oui, hein? Tout à fait. C'est un échec. Il n'a pas réussi à se faire comprendre. Non. C'est pas rien. Et alors, ça veut dire qu'il faut accepter que finalement, Dieu fait ce qu'il peut pour se faire comprendre. Et que s'il y en avait une définition facile, là, ça fait longtemps qu'il l'aurait trouvée.
Oui.
Moi, je pense qu'il n'y en a pas. On doit entrer dans la mentalité historique et consentir. Et il me semble que la Bible, c'est le meilleur éducateur, le meilleur lieu oui. pour apprendre à consentir à cela.
À cela. J'observe souvent, Francine, chez les étudiants, les étudiantes à l'Institut, ce goût de la Bible. On peut parler de plaisir, de lecture?
Je le pense, moi. On devrait pouvoir faire en sorte que les gens aient du plaisir à lire
la Bible.
Et en
même temps, il y a des défis.
Oui, ça c'est sûr. Mais il y a un outil privilégié dans la Bible, c'est le récit.
Le récit.
Et il n'y a pas d'âge pour aimer les bonnes histoires, il
non.
me semble.
Hein. D'accord ça, avec vous.
Oui. Hein.
Savez-vous quelle est une de mes histoires préférées? J'aime beaucoup Jonas.
Ah oui, moi aussi. Quel beau petit roman.
C'est un roman
Je
magnifique.
Pense. Absolument.
Hein, et qui est très parlant sur le multiculturalisme aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est tellement actuel.
Ah oui, tout à hein, fait.
Cette diversité culturelle.
Et cette colère de
Contre
Jonas
Dieu.
À la fin qui trouve que Dieu pardonne trop facilement aux méchants païens.
Effectivement.
C'est un petit roman oui. plein d'ironie. Et voyez, là, j'ai dit un roman.
Oui.
Ça a dû faire sursauter
oui,
hein,
on
des
parlait
gens.
De récit.
Hein?
Oui.
Mais c'est la parole de Dieu, le livre de Jonas. C'est
Tout
pas parce que c'est un roman que ça
n'est
pas
parole
de Dieu.
Dieu.
Hein? Peut-être qu'il n'y a pas eu un prophète envoyé à Ninive et qui a passé 3 jours dans le ventre d'un gros poisson.
Oui.
Hein? Peut-être. Mais l'auteur, lui, est en train d'essayer de faire comprendre quelque chose à sa communauté croyante en
Tout
racontant
fait.
L'histoire de Jonas. Et c'est ça la parole de Dieu. Alors, le plaisir des récits. Et vous savez, Sylvie, j'ai parlé de l'exégèse historico-critique en
oui.
début d'émission, mais les développements des méthodes de lecture actuellement mettent beaucoup l'accent sur le récit.
Le récit.
L'analyse sémiotique,
sémiotique
quand on était à l'université.
Effectivement.
Et maintenant aussi l'analyse narrative.
Narrative.
Et on redécouvre à quel point les récits, c'est plein de sagesse, plein de finesse aussi. Et c'est un merveilleux outil.
Pédagogique.
Absolument. D'ailleurs, Jésus a raconté des paraboles. Ça doit être un outil digne de confiance puisque c'était le sien. Le raconter est peut-être ce qui convient le mieux pour dire Dieu. On dit un Dieu qui nous accompagne et donc qui s'inscrit dans le récit de nos vies. Alors, Jésus a raconté Dieu hein, en le mettant en scène dans sa propre vie.
À travers ses gestes et ses paroles.
À travers ses gestes, ses paraboles, tout ça. Alors, on gagne, oui, à redécouvrir le récit biblique. Il y en a partout, hein, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, bien sûr, les Évangiles. Et faut faire attention à une chose. On a tendance à abstraire les messages du récit.
Autrement dit, je prends le récit et qu'est-ce que le récit veut nous dire?
C'est
bien
ça.
Ça, je pourrais
puis,
le traduire
voilà,
ici.
Oui, puis je le résume en 2 phrases.
Oui.
Et là, on considère ensuite que pour la pastorale ou la prédication ou
c'est
la catéchèse, on peut laisser tomber le récit puisque ce qu'on
le
va transmettre, c'est le message.
D'accord.
Alors que... C'est pas ça. Le message, il reste dans le récit.
Il est dans le récit.
Et les gens doivent avoir accès au récit. Sinon, finalement, on transfère un outil pédagogique remarquable en une idée abstraite. On sort du narratif en passant. Transformer la narrativité de Dieu, je dirais. En idée abstraite, ça s'est fait dès le 3e siècle en christianisme. Hein? C'était la tendance gnostique que l'on appelle.
Oui.
Des évangiles qui ont été écrits, par exemple l'évangile de Thomas, qui a des sources anciennes dans cet évangile, mais qui ne garde que l'enseignement. Il n'y a plus de récits.
Il n'y a plus de récits.
Il n'y a que des paroles, que des enseignements.
C'est comme si l'incarnation avait perdu de sa saveur.
Je le pense, moi.
Oui.
Et on s'imagine qu'en transformant en idée abstraite et en enseignement l'événement Jésus de Nazareth, on va transmettre l'essentiel. Mais ça va pas. Et il y a eu une grande sagesse dans l'Église à ne pas retenir ces évangiles comme canoniques. Ces évangiles-là ne sont pas entrés dans le canon, n'ont pas été retenus. Pourquoi ça prend des histoires, des récits, des paraboles? Je dirais d'abord, parce qu'avant tout, la Bible, elle nous révèle un Dieu qui fait alliance. Hein?
C'est l'alliance, effectivement. Donc, la relation.
La relation.
La relation.
Et finalement, parler de relation, de Dieu avec nous, c'est raconter. Parce que des relations, si moi je vous parle de ma relation avec mon conjoint ou avec mes enfants ou avec mes meilleurs amis,
il
je
y a
vais
une histoire.
Raconter. Ben oui.
Effectivement.
Et ça n'est pas abstrait.
Ça n'est pas abstrait.
C'est du vécu, ça prend de l'émotion. Je dois pouvoir raconter que là, ça a mal été, mais qu'ensuite, ça a remonté.
Oui, dans tel événement, à telle
voilà.
heure, à tel endroit. Effectivement, c'est très factuel.
Qu'il y a des lieux qui sont devenus symboliques,
oui.
Une chanson qui est importante pour nous.
Tout à fait.
Alors, finalement, des relations, ça se raconte. Et l'autre grand thème de la Bible, c'est que ce Dieu-là, il sauve.
L'histoire du salut.
Voilà. Et comment parler du salut sans raconter des histoires de salut.
Dans laquelle ça s'est passé.
Si je me contente de dire Dieu sauve, c'est une pure abstraction. Ça finit par ne plus avoir de résonance. Mais si je raconte le récit de quelqu'un, d'une pauvre femme qui est tellement malade, ça fait 12 ans qu'elle perd son sang, puis qu'elle est allée voir tous les médecins, non seulement ça n'a pas amélioré son cas, mais ça l'a empiré. Puis qu'elle est là, dans une foule, toute gênée, parce qu'on parle pas de ces choses-là devant les autres, puis qu'elle décide de toucher Jésus par en arrière en croyant qu'elle va être guérie. Bon, tout le
et
temps...
Et le geste est très audacieux.
Oui, c'est un geste audacieux qu'on devrait admirer. Tout le temps qu'on me dit dans le récit la détresse du personnage, l'auteur espère que je vais communier à cette détresse-là, de sorte que lorsqu'il me raconte que Jésus l'a guéri ou que Dieu a consolé Job ou... Je me réjouis comme lecteur avec ce personnage. Et donc, cette histoire qui raconte un salut m'advient à moi comme une histoire de salut. Parce que j'ai pu être malheureuse avec le personnage mal pris et
me réjouir. Et relier ma propre expérience.
Oui.
C'est comme si cette pédagogie des récits a vraiment un impact sur les lecteurs.
Je le pense. Je pense qu'elle, au fond, le récit nous demande, comme lecteur, veux-tu jouer le jeu?
Oui. Hein?
Joue le jeu du récit. Entre dedans. Projette-toi dans les personnages. Et la Bible, elle n'est pas naïve ni fleur bleue. Hein? Les personnages sont jamais idéalisés. Pierre, il dit « Tu es le Christ », mais après, il va dire « Je le connais pas ».
Exact.
Parce que ce Messie-là qui se laisse arrêter,
je veux pas le connaître.
C'est ça.
Hein? Je ne veux pas le connaître.
Le peuple est heureux d'être libéré d'Égypte, mais quelques jours après, s'ennuie d'Égypte et voudrait retourner. Donc, c'est du vrai monde.
Ça nous ressemble.
Ben oui, ça nous ressemble.
Ça nous ressemble.
Et je pense que les récits sont utilisés justement pour qu'on y entre, que l'on joue le jeu. Et c'est ce que Jésus fait avec les paraboles. Hein. Il est chez Simon le pharisien, par exemple, qui est bien disposé envers lui. Et tout à coup, Simon le pharisien voit Jésus se laisser toucher par une pécheresse et il s'éloigne dans son esprit.
Ça peut pas.
C'est pas correct.
C'est pas correct.
Hein? Qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il va lui faire un cours de théologie pour lui expliquer comment il voit Dieu et pourquoi il agit comme ça? Pas du tout, il lui raconte une parabole.
Une parabole, effectivement.
Parabole, bon, d'annulation de dette. Donc, le pharisien est invité à se projeter dans le récit. Il me semble qu'on doit garder les récits et non pas les transformer en idées abstraites. Vous voyez, l'universel, Dieu, on dit, il est universel. Mais l'universel, c'est pas dans ma vie, puis c'est dans la vie de personne. Ça n'arrive dans ma vie que dans le particulier.
Effectivement. Hein? Effectivement. Et c'est à ce prix-là, je dirais, que le récit devient vivant aussi.
Oui, absolument.
Il devient vivant. Il n'y a rien de figé dans
c'est
un
ça.
Récit. À l'heure actuelle, au Québec, il y a beaucoup de groupes bibliques qui se forment et justement qui, à travers les récits évangéliques, les récits bibliques, vont faire cette démarche de se mettre à l'écoute du récit.
Oui.
De voir c'est qui les personnages, où sont-ils, de quoi sont-ils témoins, que fait Jésus,
oui.
Que dit Jésus, quels sont les gestes qui sont posés.
Absolument.
Et de pouvoir entrer dans l'intelligence, je dirais,
exactement.
Du récit.
Exactement, de jouer le jeu du récit et de se rendre compte que tous les détails sont intéressants et importants. Ce que l'on nie quand on dit l'important, c'est le message. En fait, non, tous les détails, si c'est à 3 heures de la nuit, ça ne veut pas dire la même chose que si c'est à 3 heures de l'après-midi. Pourquoi c'est au lever du soleil qu'on découvre le tombeau vide? Voyez, rien n'est là pour rien. Faisons ce pari-là quand
oui,
on lit.
Oui.
Et donc, ça veut dire que pour les agents de pastoral ou les prédicateurs, on doit vraiment profiter, exploiter le récit plutôt que de dire, bon, ben, je vais en extraire le message. Une sorte de vérité générale prête à porter, là. L'expérience existentielle, c'est pas ça. L'expérience existentielle, c'est que les vérités générales comme ça, sur un plateau, je suis toujours obligé de les remettre dans ma petite vie à moi si je veux
oui,
que ça veuille dire quelque
oui.
chose.
Si je veux qu'elle devienne grande.
Absolument.
Oui. D'ailleurs, n'est-ce pas une question qu'on entend souvent de dire pourquoi s'attarder aux dates, pourquoi s'attarder au contexte? On le sait bien, il faut s'aimer les uns les autres.
Mais oui, comme si c'était simple, hein, Sylvie, s'aimer les uns les
tellement
autres.
Tellement simple, facile.
C'est ça. Il n'y en a pas de problème. Mais dès que c'est dans des situations concrètes, le principe s'aimer les uns les autres devient complexe. Et il y a du discernement, il y a des obstacles, il y a des tendances. Et c'est ça que les récits mettent en scène, la complexité de la vie
oui.
humaine en elle-même et la complexité de la vie humaine en relation avec Dieu aussi. Et vous savez, on a nos propres questions aussi. La vie n'est pas toujours facile. On vient au texte avec ce qu'on est. On ne vient pas du monde biblique. Nous, on est dans notre siècle, le 21e siècle. On a nos questions, on a nos quêtes, on a nos représentations et on vient avec cela au texte. Et à mon avis, jouer le jeu du récit biblique, ça ne veut pas dire s'immerger dans « il y a 2000 ans » ou « il y a 3000 ans ». Ça veut dire venir au récit avec notre propre charge d'existence, notre propre poids d'existence. Et ça, j'aimerais rappeler la question que Jésus pose aux scribes dans l'Évangile de Luc, comme dans Marc et Matthieu, il y a cette fameuse question équivalente à quel est le plus grand commandement. Chez Luc, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, mais ça va être, vous savez, nos deux grands commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. Chez Luc, Jésus ne répond pas à la question. Il la lui retourne en disant, dans les Écritures, qu'est-il écrit? Comment lis-tu? Deux questions. Qu'est-il écrit? Ça ne veut pas dire la même chose que comment lis-tu.
Non. Hein?
Qu'est-il écrit? Regarde bien, les mots sont là, c'est pas ton désir qui est là, c'est les mots.
Exact.
Le récit est construit de telle manière, le texte est écrit comme ça, c'est pas
et
moi qui
l'écris. C'est à l'extérieur de soi.
C'est à l'extérieur, tout à fait. Mais comment lis-tu? Là, c'est le sujet lecteur. Toi, quand tu vois ces mots-là, de quelle manière ça résonne en toi? Comment tu les comprends? Comment tu réfléchis? Comment tu interprètes? Et ces deux questions-là sont là. Dans le Prions en Église, c'est un peu dommage, c'est traduit « Qu'est-il écrit? Que lis-tu? »
Ah, ce n'est pas la même dynamique.
Pas du tout. « Que lis-tu? » C'est la même question que « Qu'est-il écrit? » Il me semble que c'est pas la même chose du tout. Alors, cet espace-là pour la subjectivité interprétative du lecteur, Jésus la reconnaît déjà. Parce que on lit avec ce qu'on est et heureusement, si on veut que ce que nous sommes soit évangélisé par le texte, il faut bien que ce que nous sommes soit apporté
au texte,
hein, d'une certaine manière. Et dans ce sens-là, oui, je reviens à ce que vous disiez au début de cette partie de l'émission, lire, ça peut être ludique, ça peut être un plaisir et c'est sans fin, en fin de compte.
C'est sans fin, une histoire sans fin.
Oui, au fond, entrer dans la lecture des récits bibliques, je dirais, c'est entrer soi-même dans l'histoire sainte.
Oui.
L'histoire sainte, elle est déployée par les deux testaments et elle est ouverte sur une suite de la relation entre Dieu et l'humanité. Et inscrire ma petite histoire à moi dans les petites histoires des récits bibliques, c'est moi-même trouver ma place dans l'histoire sainte. Il me semble que pour faire ça, il n'y a pas de méthode unique, Il n'y a que le consentement à prendre son temps, admettre l'enracinement historique des textes, les genres littéraires.
Les genres littéraires, le langage demander, symbolique.
Le langage symbolique, pas demander au texte d'être un reportage historique au sens strict. Moyennant quoi, si je consens à ça, à du temps et à le faire avec d'autres?
Le faire avec d'autres, ça c'est l'élément que je voulais relever aussi.
Oui.
Comment est-ce que porter communautairement cette lecture de la Bible est un enrichissement pour les uns et les autres.
Absolument.
Parce que ce que le récit peut contribuer à me faire cheminer peut être très différent pour la personne qui est assise à côté de moi.
Et ce qu'elle dit m'empêche d'enfermer le récit dans ma propre lecture.
Effectivement.
Et donc de savoir que oui, là j'interprète le récit comme ça, mais faisant ça, je ne dis pas tout du texte.
On ne peut pas l'épuiser.
C'est ça, exactement, et que le texte va survivre au sort que nous lui faisons subir et qu'il sera encore là dans 10 ans quand j'aurai changé. Et donc, il y a toujours de l'autre, je dirais, et le groupe rend cela plus manifeste. Et de toute manière, l'histoire sainte, c'est une histoire communautaire, c'est l'histoire de l'humanité, c'est pas mon petit Dieu et moi.
Non.
Donc, m'inscrire dans l'histoire sainte, c'est m'inscrire avec d'autres, finalement, dans cette longue histoire d'une alliance avec Dieu.
Francine, un immense merci. C'est tellement intéressant, c'est tellement encourageant aussi.
Et merci, Sylvie, d'avoir animé cette émission qui m'a permis, je l'avoue, de parler d'un sujet qui m'intéresse tellement. Sylvie, un grand merci. Je profite de cette émission qui est la dernière de la série Croire d'hier à demain pour remercier tous les gens qui ont partagé avec nous leurs compétences, leurs réflexions, les nombreux professeurs invités à l'Institut et les collègues de l'équipe de l'Institut pastoral. Et un merci tout spécial, vraiment spécial à Christine Cossette. Christine a animé, et ça veut dire préparé et fait le montage des 2/3 des émissions de la série, entre autres avec Marc Chevary. Alors, je la remercie de façon toute spéciale. Et bien sûr, en dernier lieu, un grand merci à Radio Ville-Marie de nous avoir ouvert de l'espace sur ces ondes pour que nous puissions partager avec vous ces réflexions sur l'expérience croyante aujourd'hui. C'est Francine Robert au microphone. Merci et bon été sur les ondes de Radio Ville-Marie.